l'information de ce dimanche 2 août, c'est avec Ève Roger et Émilie Dez.
Parfois, on a des imprudences dans l'utilisation d'appareils de bricolage, comme des disqueuses ou autres, qui à tout moment peuvent déclencher un incendie.
L'appel à la vigilance des pompiers après Anglette. Deux nouveaux incendies se sont déclarés hier dans l'Ardèche et le Gard. Des dizaines d'hectares sont partis en fumée.
Bison futé classe la journée orange dans le sens des départs au niveau national. C'était noir hier et sous la chaleur, la route était difficile pour les vacanciers.
On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Plus on avance, plus le temps se rajoute sur mon GPS. Ça fait déjà 10 heures qu'on est parti et on a encore au moins 3 heures. On va pratiquement doubler le temps du trajet.
Et puis, masque obligatoire dès demain dans certaines communes de Mayenne et de la métropole lilloise, une mesure dictée par la reprise de l'épidémie de coronavirus.
On constate un doublement du nombre de cas sur la métropole européenne de Lille en une semaine. Et donc, c'est évidemment une dynamique qui nous inquiète.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Alerte canicule maintenant ce matin, maintenue ce matin dans deux départements du Sud-Est, l'Ardèche et la Drôme. Les pompiers appellent à la plus grande vigilance cet été.
Et les incendies se multiplient ces derniers jours. Après Anglette jeudi, deux départs de feu ont été enregistrés en Ardèche et dans le Gard hier aux portes de Nîmes. Une trentaine d'hectares ont été détruits, 70 à Saint-Marcel-les-Annonay, dans l'Ardèche donc. 15 habitations ont été évacuées à titre préventif. Les occupants ont été temporairement hébergés dans la salle des fêtes de la commune. Le porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France, Éric Brocardi, appelle à la plus grande prudence.
Forcément, c'est l'été, on a du temps et il s'avère que parfois on a des imprudences dans l'utilisation d'appareils de bricolage comme des disqueuses ou autres qui à tout moment peuvent déclencher un incendie. On a les fenêtres ouvertes. On a malencontreusement cette idée folle et complètement absurde de jeter une cigarette par la fenêtre et ce qui peut amener un départ de feu de forêt après massif derrière. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on le rappelle, 90% des départs de feu aujourd'hui sont causés par les citoyens, dont 70% sont d'origine accidentelle, 30% malheureusement sont intentionnels. Donc c'est vrai qu'on essaye au travers de nos messages de prévention, sensibiliser un petit peu plus la population sur le fait d'être extrêmement vigilant et de extrêmement bien respecter les consignes préfectorales, les règles dans le domaine naturel, de manière à pouvoir préserver notre patrimoine environnemental.
Éric Brocardi, le porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France au micro européen de Diane Berger.
Et il va faire encore très chaud aujourd'hui, jusqu'à 34 degrés dans les Bouches-du-Rhône, une chaleur difficile à supporter, mais pas que pour nous.
Oui, les animaux aussi en souffrent, à tel point que les fermes pédagogiques ont décidé de les déménager. Yasmine Akatou s'est rendue à la bergerie d'Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine.
Moutons, brebis et chèvres ont déménagé dans une prairie à 1 km de leur ferme urbaine. Cette petite transhumance est nécessaire pour trouver un peu de fraîcheur à l'ombre des arbres. Cécile vient de la ferme pour voir si les moutons résistent bien.
C'est ombragé, les animaux se posent généralement sur cette surface-là, histoire d'être un petit peu au frais. On change toutes les eaux. Ça peut être jusqu'à 3, 4 fois, 5 fois par jour s'il le faut, parce qu'une eau, une fois qu'elle devient chaude, les animaux n'en ont pas envie. C'est comme pour nous, ça donne moins envie de boire de l'eau chaude, même si ça hydrate bien aussi.
À la ferme urbaine, les enclos en plein soleil sont presque tous vides, sauf ceux des cochons.
On leur a mis une petite piscine sur le côté pour qu'ils puissent se rafraîchir s'ils en ont envie.
Les lapins, eux, sont placés dans une pièce, température intérieure 24 degrés. Pour éviter la chaleur, Jennifer a fermé fenêtres et volets.
Leur poil est un poil qui est composé que de duvet, donc il y a beaucoup de poils. Donc c'est brossage et toilettage régulier. Et sur notre lapin angora, on peut parfois aller même jusqu'à la tondeuse pour vraiment la soulager de ce poil qui va vraiment être beaucoup trop lourd et trop chaud pour elle.
Pour leur bien-être, les lapins sortent quand même en extérieur, à la fraîche, très tôt le matin ou très tard le soir.
Yasmine Akatou pour Europe 1.
Il y a du monde encore aujourd'hui sur les routes. Ce dimanche est classé orange dans le sens des départs, rouge même pour les régions Grand Ouest et Auvergne-Rhône-Alpes.
Difficile de voyager sous la chaleur. La journée d'hier, encore plus chaude, a paru interminable pour beaucoup d'automobilistes. Il y avait un monde fou pour ce premier gros week-end de chasse et croisée, jusqu'à 760 km de bouchons cumulés à la mi-journée. Forcément, ça énerve un peu, surtout quand on est pressé. Johanna Chabas a croisé Denis, parti des Yvelines, très tôt, direction l'A7, l'autoroute du Soleil. Mais la journée a été galère pour lui. Finalement, les vacances, ça se mérite.
C'était une horreur, tout le long. On est 5 dans une petite voiture. Ma fille, qui est derrière, a un bébé, elle est enceinte. Elle en peut plus. Elle est au bord de l'épuisement. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. On se retrouve tous enroulés à 100, 110, freinés, accélérés. Des queues de poissons de partout parce qu'il y en a qui sont pressés, qui ne respectent pas les distances de sécurité. C'est épuisant de conduire dans ces conditions. S'il n'y avait rien eu à l'extérieur, vous voyez, on serait déjà arrivé les pieds dans l'eau. Mais ce n'est pas le cas. Plus on avance, plus le temps se rajoute sur mon GPS. Pour 700 km, où on devait mettre 7-8 heures, ça fait déjà 10 heures qu'on est parti. Et on a encore au moins 3 heures, on va pratiquement doubler le temps du trajet.
Quel calme, parce que finalement il garde bien son calme, hein, cet homme.
Oui, mais on le sent quand même un peu tendu. Avec les 10 heures là sur le GPS.
En tout cas, c'est le début des vacances pour certains, on l'a entendu. Mais on est déjà à mi-chemin de l'été, Émilie.
Alors que les Aoussiens viennent de prendre leur quartier à l'hôtel, au camping ou dans une location, c'est l'heure de tirer un premier bilan des vacances pour ceux qui sont partis en juillet. Alors où sont allés les Français? Quel séjour ont-ils privilégié? Réponse de Vangelis Panayotis, président de MKG Consulting, un cabinet spécialisé dans le tourisme.
On a vu que la Bretagne s'en est très bien sortie, où ils ont quasiment fait des performances assez proches de celles de l'année dernière. Et on voit que le côté rural et montagne également. Tout ce qui a été location d'appartements ou de villas, pendant le confinement, les Français ont plutôt réservé ce type d'établissement ou ce type d'hébergement parce qu'ils ont prévu de le faire en tribu, en famille ou entre personnes qui étaient en confinement. Très rapidement, ça s'est rempli très vite. Et c'est vrai que les hôtels, ça s'est plutôt fait à la dernière minute et principalement sur le littoral. Les campings ont plutôt fonctionné correctement, parce que généralement c'est une clientèle qui est plutôt française, qui en plus n'a pas besoin de prendre l'avion ou le train et peut utiliser ses moyens personnels comme la voiture pour se rendre sur ses lieux de vacances en famille. Également les villages de vacances ont plutôt fonctionné pas trop mal. Et ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que tout ce qui était insolite et plutôt du tourisme de niche, comme les camping-cars, comme le fluvial également, a plutôt tiré son épingle du jeu et les Français ont cherché des alternatives à leurs vacances traditionnelles.
Vangelis Panayotis, président d'un cabinet spécialisé dans le tourisme au micro européen de Mathieu Bock.
Direction les États-Unis maintenant, avec une situation étonnante.
Le Sénat américain a planché toute cette semaine sur le vote d'une aide alimentaire destinée aux populations les plus pauvres, quelques centaines de dollars, très attendue par des millions de précaires, sauf que le Sénat a interrompu ses travaux. Ils reprendront demain, mais en attendant, les bénéficiaires se retrouvent en grande difficulté.
Depuis vendredi, les Américains au chômage, qui touchaient jusqu'alors une aide de 600 dollars par semaine, n'ont plus rien. Les politiques n'ont pas su se mettre d'accord sur la prolongation de cette aide pourtant indispensable. Conséquence directe, 30 millions d'entre eux déclarent qu'ils ont déjà eu faim dans les semaines passées et ils sont maintenant dépendants des banques alimentaires, au nombre de 200 dans le pays, et gérés par quelques 60 000 associations caritatives sur le terrain. Maria, une Mexicaine de 75 ans, vient, pour la première fois de sa vie, chercher de la nourriture.
On a vraiment besoin d'une aide cette fois-ci, c'est vraiment dur.
Et les responsables des banques alimentaires s'inquiètent du nombre grandissant de demandeurs, en augmentation de 80% dans certains États depuis le début de la pandémie. Avant, nous servions environ 200 personnes par semaine. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 15 000. Le plus préoccupant, ce sont les enfants qui avaient l'habitude de manger dans les écoles, aujourd'hui fermées.
On a des enfants qui ne mangent pas à leur faim chez eux. Ils sont normalement nourris dans les écoles avec le petit déjeuner. Le déjeuner, un goûter et puis souvent le dîner, 5 jours sur 7.
Mais les autorités sanitaires, au-delà même de la pandémie qui ne décroît pas, s'inquiètent surtout du nombre de morts à venir, avec un chiffre glaçant. Entre 8 et 10 000 Américains ajouteront leur nom au chiffre annuel de 47 000 morts par suicide. Aux États-Unis, Benoît Clerc, Europe 1.
Retour en France où, pour contrer l'épidémie de coronavirus, le port du masque sera obligatoire dès demain en extérieur dans 69 villes de Mayenne, mais aussi dans 94 communes de la métropole lilloise.
Un masque obligatoire dans les zones piétonnes, les marchés de plein air, aux abords des gares, mais aussi dans les espaces verts. Une décision qui fait suite, vous le disiez Eve, à une recrudescence des cas positifs au Covid-19. Étienne Champion, directeur de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, appelle à la vigilance.
On constate un doublement du nombre de cas sur la métropole européenne de Lille en une semaine. Et donc, c'est évidemment une dynamique qui nous inquiète. Les mesures, la plus spectaculaire, c'est bien sûr celle sur les masques, hein, avec l'obligation dans toutes les zones denses, on va dire, de la métropole. Mais ce sont aussi des mesures que nous prenons pour protéger les personnes les plus fragiles, hein, avec une régulation renforcée des visites en EHPAD. Et puis aussi, nous a lancé une campagne de sensibilisation, de promotion des gestes barrières et de promotion de l'application Stop Covid, qui va se faire sur les réseaux sociaux et sur internet, parce que nous pensons que notamment en lieu festif, pour les jeunes et puis un peu moins jeunes, qui mangent, qui boivent, évidemment ils ne peuvent pas toujours porter le masque, et l'application Stop Covid, c'est une très bonne solution pour à la fois profiter d'un certain nombre de lieux festifs et en même temps permettre de lutter contre l'épidémie.
Étienne Champion, directeur de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, au micro Europe 1 de Maximilien Carlier.
Et puis n'oubliez pas votre bouée en mer, c'est l'appel très sérieux que lancent les sauveteurs en mer.
On n'y pense pas, mais un matelas pneumatique laissé dans les vagues ou une bouée licorne abandonnée à l'écume peuvent déclencher des opérations d'urgence, car pour les sauveteurs, elles peuvent être synonymes de noyade, alors soyez vigilants quand vous sortez de l'eau. Le capitaine de vaisseau Christine Ribbe, porte-parole de la préfecture maritime de la Méditerranée.
On aimerait que des gens nous appellent quand, par exemple, ils perdent un objet à la mer. Pas plus tard qu'hier, sur un matelas pneumatique un petit peu volumineux, eh bien, on a déclenché des moyens de la SNSM, des marins-pompiers de Marseille, l'hélicoptère de la sécurité civile, tout ça pour rien. Et ces moyens-là peuvent être utiles à d'autres qui sont réellement en difficulté et qu'il va falloir aller les sauver. Jusqu'à présent, on n'a pas déclenché de moyens sur des mauvais coups de fil parce qu'on s'en est rendu compte à force de poser des questions, et on n'a pas déclenché des moyens surdimensionnés sur des mauvaises blagues. Pour autant, ça nous prend du temps. Plus de 200 opérations par semaine en Méditerranée en ce moment déclenchées pour sauver des gens ou des biens. Ça nécessite du temps, de l'attention, et toute l'attention que l'on porte à un coup de fil, à une information qui est fausse, c'est du temps qu'on ne passe pas avec une autre personne qui peut être en détresse réellement.
La capitaine de vaisseau Christine Ribbe, porte-parole de la préfecture maritime de la Méditerranée, jointe par Mathieu Bock.
Merci Émilie Dez, à tout à l'heure, 10h.